Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Bon de vous voir ce matin, comme chaque week-end, il est bon de se rassembler autour de la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais poursuivre la série que nous avons commencée avec le pasteur Bruno il y a quelque temps de cela sur « Régner avec Christ ». Regarde ton voisin et dis-lui, est-ce que tu es au courant que Christ veut que tu règnes avec lui? Vous savez, c'est notre privilège, c'est le privilège des enfants de Dieu, que nous puissions régner avec Christ. À quoi cela servirait-il que nous avons le Saint-Esprit si c'est pour avoir aucune différence avec les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit? À quoi cela servirait-il? Et Dieu nous a donné son Fils, Jésus-Christ, qui est mort, et bien plus, nous les Écritures ressuscitées. Nous sommes sauvés, nous avons aussi reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est avec nous, il veut régner en nous. Jésus-Christ est né pour régner. Et son désir, c'est que nous puissions être sauvés pour régner aussi avec lui. Amen. Quand la parole de Dieu dit... Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Si Jésus lui-même nous demande de prier cette prière, c'est pour la réaliser. C'est pour que le ciel vienne sur la terre. Pour que ton règne, qui est au ciel, vienne sur la terre. Pas pour que nous allons au ciel tout de suite. Il y a une mission d'abord. C'est d'amener son règne sur la terre comme au ciel. Romains 5, verset 17 nous dit... Certes, la mort a manifesté son pouvoir par la faute d'un seul homme. Et à cause de ce seul être, la mort est arrivée. Mais par le seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus. Waouh ! Par le seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus que la mort. Gloire à Dieu ! Tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et le don de son œuvre salutaire vivront et régneront à cause de du Christ. Vivront et régneront à cause du Christ. Le cœur de Dieu, c'est que nous puissions régner. Mais souvent, on pense au règne comme un roi assis sur un grand trône et qui domine. C'est pas de ce règne-là d'abord que Dieu parle. Il parle de régner sur l'angoisse, régner sur l'amertume, régner sur la peur, régner sur la haine. Régner sur le non-pardon, régner sur tout ce qui vient te pourrir la vie envoyée par l'ennemi. Régner sur les tempêtes de la vie, qu'il y a une tempête à l'extérieur pour que la paix de Dieu règne à l'intérieur. Ça parle d'abord de ce règne-là. Ce règne où le Seigneur est réellement le Seigneur de nos vies. Parce qu'il désire... régner en nous pour pouvoir régner au travers de nous. C'est son cœur. Et on devrait dire amen pour ça. Je trouve ça extraordinaire de savoir que Dieu veut, c'est notre privilège, de pouvoir régner sur la peur, régner sur la haine, parce que sa paix règne. Et ça, c'est bon. Jésus-Christ lui-même est né pour régner. Il n'est pas resté dans une petite étape, mais il n'est pas resté dans une mangeoire. Il est aujourd'hui assis à la droite de Dieu. Il n'est plus sur la croix. Il est assis à la droite de Dieu. Mais entre la mangeoire et le trône, il y a eu un processus. Il y a eu un voyage. Il y a eu toute une aventure. Une croissance, si tu préfères. Et cette croissance, en tant qu'enfant de Dieu, maintenant, nous aussi, nous avons cette possibilité de bénéficier de cette croissance. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, pour nous amener à régner. Et c'est ce qu'enseigne un petit peu cette série que nous avons commencé à voir avec le pasteur Bruno. En nous servant de l'exemple du roi David, parce que Jésus est aussi le fils de David, Nous voyons que David, dans sa vie, avant qu'il soit roi, avant qu'il règne en Israël, il y a eu 4 grandes étapes. Il y a plusieurs étapes, bien sûr, mais on pourrait scinder la vie de David en 4 grandes étapes. L'étape où il était à Bethléem, c'est cette partie-là qu'on avait vue avec le pasteur Bruno. L'étape où il était à Adoulam, et c'est ce qu'on a commencé à voir ce matin. L'étape où il était ensuite à Hébron, et l'étape où il était ensuite à Sion. Et Sion, c'est le lieu de règne. C'est là que le roi David a commencé à régner, à Sion. Mais avant d'arriver à Sion, avant que toi et moi on arrive à Sion, il y a un processus, il y a un voyage que nous devons faire, il y a des choses que nous devons apprendre et intégrer. Et à Bethléem, on a vu que Bethléem signifiait que nous devons être fidèles dans les petites choses, dans les choses insignifiantes. Bethléem, c'est que nous devons être fidèles dans les choses naturelles. Et nous avons compris qu'il y a un lien direct, une interaction directe entre les choses naturelles et les choses spirituelles. Un simple rappel, Jésus nous dit, si tu donnes un peu un verre d'eau à l'un des plus petits, tu as une récompense. Donc, ce geste naturel de donner un simple verre d'eau produit quelque chose dans la réalité spirituelle sur ton compte. Et Bethléem, c'était ça. Être fidèle dans les petites choses. Et le roi David a été fidèle dans les petites choses. Il a commencé à avoir du succès. Le roi David a été fidèle lorsque son père lui a dit « Va servir tes frères ». Le roi David a été fidèle lorsqu'il a fallu se tenir devant Goliath. Il a été fidèle lorsqu'il a fallu protéger son troupeau de brebis. Il a défendu son troupeau face au lion, face à l'ours. Et là, à Bethléem, comme il est fidèle dans les petites choses, il commence à être promu, il commence à diriger des troupes militaires du roi, il a du succès, il commence à avoir beaucoup de succès, les gens l'apprécient, sa réputation a fait un bond, de l'inconnu qu'il était, il est devenu en un instant le guerrier David qui a battu le géant Goliath, tout le monde commençait réellement à le connaître et à l'apprécier, et à un tel point que malheureusement, son succès lui a attiré des persécutions. Le succès attire parfois, même souvent, la persécution. Le roi Saül a commencé à être jaloux de David. Et la parole de Dieu nous montre dans 1 Samuel 18, verset 7, « Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant, « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité et il prit très mal la situation. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne manque plus que la royauté. Saül regarda David avec malveillance à partir de ce jour-là et par la suite. Le roi Saül a commencé à être jaloux parce que les femmes chantaient, Saül a tué ses 1000, mais David a tué ses 10 000. Et là, il a commencé à tiquer. Et il a dit, il ne lui manque plus que la royauté. Mais il avait oublié que la royauté lui avait déjà échappé. Parce que Dieu l'avait déjà donné à David. Et retiré à Saül. Sauf que Saül, à ce moment-là, est toujours sur le trône. Même si Dieu lui avait déjà enlevé la royauté. Et alors, cette jalousie a commencé à se transformer en désir meurtrier. Ensuite, Saül avait envie de tuer David. Il a essayé à 2 reprises avec une lance. Et il a commencé à monter une stratégie pour éliminer David, pour pas que sa royauté soit en danger. Et David a dû fuir, quitter donc le palace pour aller dans la cave, dans une caverne, dans la cave d'Adoulam. C'est là que David est arrivé à Adoulam. Il a pris la fuite. Il s'est caché pour protéger sa vie. Et dans 1 Samuel 22, à partir du verset 1, il est écrit, « David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Waouh! Nous comprenons le contexte ici d'Adoulam. David est dans une grande détresse. Il a peur pour sa vie. Il fuit. Son patron, son chef, son leader, le roi, veut le tuer. Il fuit. Il va se cacher dans une cave pour pas qu'on le trouve. Sa famille vient le rejoindre avec ses parents. Ils sont ensemble. Et là, il y a 400 hommes qui arrivent. Mais les 400 hommes qui arrivent, ce ne sont pas, je dirais, des nobles. Ce ne sont pas des chefs d'entreprise. Ce ne sont pas des gars intègres. Ce sont des gars rebelles, des gars qui sont dans les dettes. Ils ont des créanciers. Ce sont des gars qui sont mécontents. Ils n'aiment pas non plus le roi Saül. Et pour eux, David est la seule opportunité, la seule alternative à un autre royaume pour faire capoter celui de Saül. Ils ont une dent contre Saül, ils aimeraient vraiment que Saül meure. C'est ce qu'ils vont essayer, en tout cas, d'encourager le roi David de faire. Ça, c'est Adoulam. Donc comprenons bien, ces gens-là ne sont pas venus pour être loyaux à David au premier abord. Même à un moment, il y a une erreur dans cette histoire où David avec ces hommes-là, ces hommes ont parlé même de le tuer à un moment. Parce qu'ils sont partis en campagne militaire et lorsqu'ils sont revenus, les femmes et les enfants ont été enlevés. Donc David n'est pas entouré d'une équipe là au début super loyale. Il n'est pas entouré d'une équipe qui est venue lui dire « Oh, on est là pour servir tes intérêts et pour construire le royaume que Dieu veut que tu construises. » On est là, David, pour que le royaume, la royauté que tu as se manifeste. Ils s'en fichent. Ils ne sont pas là pour David. Ils sont là pour eux. C'est ça au départ. Ils sont là pour savoir qu'est-ce que je peux retirer de David. Ils sont là pour en eux, ils pensent, David, qu'est-ce que tu vas pouvoir me donner? Comment suivre David pour qu'il comble mes besoins? Ils ne sont pas là pour son intérêt à lui. Ils sont là pour leur intérêt à eux. Et ça, c'est Adoulam. Adoulam, écoute bien ceci, c'est le lieu où tu es dans le besoin et tu as des gens qui sont encore plus dans le besoin qui t'entourent. Et David, dans une grande détresse, a dû apprendre à prendre soin de personnes qui sont dans une plus grande détresse que lui. Adoulam, c'est le lieu où tu es entouré de gens qui sont dans le besoin, alors que tu es toi-même dans le besoin. Et Adoulam, c'est donc ce lieu-là où, malgré tes besoins, tu apprends à servir le besoin des autres. Ça, c'est Adoulam. Adoulam, c'est le lieu où, lorsque tu es malade, Dieu te dit « prie pour les malades ». Adoulam, c'est le lieu lorsque tu n'as pas de sous, Dieu t'envoie des gens qui ont encore moins de sous. Adoulam, c'est le lieu lorsque ton frigidaire est vide. Tu connais des gens qui n'ont même pas de frigidaire. Ça, c'est Adoulam. Et là, tu apprends. Soit tu es consumé par ton propre besoin, ou tu apprends à retirer tes regards de tes propres besoins pour aussi aider les autres qui sont dans le besoin, en mettant ta confiance en lui. Et ça, c'est Adoulam. Et David à Adoulam était bien sûr toujours loin. Et ces hommes-là qui sont venus ont commencé à voir que ce gars-là, David, qui était dans le même besoin qu'eux, ne réagissait pas comme eux. Que ce gars-là avait une façon différente d'aborder les besoins. Ils ont commencé à apprendre de lui. Ils ont vu qu'il est resté loin, que lui, ses besoins ne le consumaient pas. Il était capable, malgré ses besoins, de prendre soin d'eux. Comprenez la situation. David fuit le roi Saül. Mais il y a toujours un ennemi, les Philistins. Ils sont dans les dettes. Si l'ennemi arrive pour faire la guerre, Si tu n'as pas d'argent, comment tu vas acheter des armes? Comment tu vas forger des épées sans argent? Il est entouré de gens sans argent. Et à l'époque, pour des troupes, pour se faire, en tout cas, de l'argent, il fallait gagner des guerres. Parce que c'était lorsque tu gagnais des guerres que tu récupérais le butin de l'ennemi. Et en récupérant le butin de l'ennemi, eh ben, tu t'enrichissais. Mais pour pouvoir faire la guerre, il fallait déjà avoir des armes. Mais si tu es entouré d'une équipe de bras cassés comme David, qui sont dans les dettes, qui sont mécontents, qui sont rebelles, c'est pas facile. Et pourtant, David a transformé par la grâce de Dieu ces hommes qui sont venus autour de lui, qui étaient dans la détresse, ces rebelles qui étaient mécontents, en vaillants guerriers. Il a transformé ces soldats qui étaient dans la faiblesse en des soldats valeureux par la grâce de Dieu. Et j'aimerais vous dire, c'est ce que Dieu continue de faire aujourd'hui. La plupart d'entre nous, nous sommes venus à Jésus parce que nous étions dans un besoin. Et nous sommes venus en disant, qu'est-ce que Jésus peut faire pour moi? Nous ne sommes pas venus au départ pour son intérêt. Nous sommes venus au départ pour notre intérêt. Peut-être que tu étais dans des dettes. Peut-être que ton couple était tellement brisé. Peut-être que tu avais une situation au travail difficile. Peut-être que tu as un problème dans ton corps. Et là, comme ces gars-là qui viennent vers David, on vient vers Jésus. Mais on ne pense pas à lui du tout. On pense à nous. Et on se demande qu'est-ce qu'il peut faire pour nous. Donc comprenez bien ceci. Il n'y a pas de problème lorsque on est conduit à venir rencontrer Dieu à cause de nos besoins. C'est normal et c'est une saison normale dans nos vies. Le problème, c'est que si cette saison dure toute notre vie, alors là, il y a un souci. Là, il y a un réel souci. C'est si la saison de « Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» dure pendant toute notre vie chrétienne. Là, il y a un réel souci. On a chanté tout à l'heure, ce n'est pas ce que tu peux faire pour moi, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Adoulam, c'est le lieu où on apprend à servir les besoins de Dieu en répondant aux besoins des autres, en ne nous laissant pas consumer par nos propres besoins. Parce que si on vient à Dieu et qu'on se dit « Oui, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» Alors c'est comme si on pensait que Dieu existait pour moi. C'est comme si on pensait que Dieu existait pour moi. Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire? Mais Adoulam, c'est le lieu où on apprend et on réalise que non, j'existe pour lui. Et je commence à lui demander, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? C'est différent. Donc il n'y a pas de mal, il ne faut pas se sentir coupable ou se sentir condamné si on a été conduit à Jésus par nos besoins. Mais le danger, c'est que si on reste constamment accroché à Jésus à cause de nos besoins. Cela signifie que quand nos besoins seront comblés, on va s'éloigner de lui. C'est pour ça qu'il faut à un moment donné tirer nos regards de nos propres besoins et de chercher à répondre à ses besoins. Et les besoins de Dieu sont toujours les besoins des autres, les besoins de son peuple. Donc on arrive faible, comme David, comme les hommes de David. Mais Jésus est le fils de David. Et il veut nous transformer en vaillants guerriers. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 1, 26, « Considérez, frères, que parmi vous, vous avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Donc c'est pas grave si on arrive faible. Dieu a choisi les choses faibles. Il a choisi des gars en détresse, des gars mécontents pour entourer David. Mais David, par la grâce de Dieu, a fait d'eux des hommes valeureux. David, c'est le seul roi dans la parole de Dieu, dans tous les rois dont on parle dans la parole de Dieu, qu'on parle de ces vaillants soldats. Il y a un chapitre entier sur les 30 guerriers de David. Il a transformé ces gars-là en gars dangereux. Mais au départ, ils sont venus pour leurs propres besoins. Et c'est ce que Jésus veut faire avec toi et moi. On arrive au départ pour nos propres besoins. Et il nous conduit à Adoulam, une étape de notre vie, pour nous dire maintenant, c'est bien, je vais répondre à tes besoins. Mais ne sois pas trop consumé par tes besoins. Comprends que même si toi, tu es dans les besoins, il y a des gens qui t'entourent et qui sont encore plus dans le besoin que toi. Et David a commencé à comprendre ça. Et Dieu prend les choses faibles du monde pour confondre les fortes. C'est son cœur. C'est pour ça qu'il est écrit que le faible dise « Je suis fort ». En Christ, il nous rend fort. Il ne veut pas qu'on reste faible. C'est pour ça qu'il veut nous amener à régner. Il ne veut pas juste qu'on soit sauvé et qu'on dit toujours « Aide-moi Seigneur ». Mais il veut qu'on devienne mature et commence à dire « Oh Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» C'est comme si vous êtes parent, que vous avez des enfants, au départ vous leur dites bah, « brosse tes dents » ou sinon tu brosses tes dents, tu brosses leurs dents d'abord, tu les apprends, tu fais le lit au départ, tu fais leurs vêtements, tout ça. Puis après quand ils grandissent, tu dis « Attends, maintenant toi-même tu brosses tes dents, toi-même tu fais ton lit, toi-même tu ranges ta chambre. Attends, prends-toi en main, c'est ton destin. » Tu commences à dire à tes marmailles « Hé, réveille-toi un peu !» Parce que ce ne serait pas bien de laisser le marmaille dépendre uniquement de ses parents. Et Adoulam, c'est ça. Dieu voulait montrer à David que d'accord, il est dans la détresse. Mais pour être un roi et amener le règne, un roi doit être conscient que s'il veut régner, la meilleure façon de régner, c'est de servir les autres. Et David a dû apprendre ça à Adoulam. Parce que Jésus s'est fait serviteur. Et donc, Adoulam, c'est le lieu où tu sers les besoins des autres alors que tu es toi-même dans le besoin. Mais Adoulam, c'est le lieu aussi où David est devenu un modèle parmi les rebelles. Un modèle divin. David est devenu l'existence, l'évidence plutôt, de l'existence de Dieu aux yeux de ces hommes. David savait que pour transformer ces hommes, il fallait vraiment que Dieu soit avec lui, que Dieu les transforme. Et il devait être un modèle pour ça. Ces hommes étaient venus pour eux, ils ne pensaient pas servir Dieu, encore moins son peuple. Ils étaient venus pour retirer de David. Mais David les a amenés à fixer leur regard sur Dieu. Comment ? Parce qu'eux sont venus en disant « David, c'est toi notre chef ». David a dit « Ok, alors je vais vous montrer c'est qui le vrai chef. Dieu lui-même. » Et David, lui, s'est connecté à Dieu. Et eux, s'est connecté à David. Mais je vais vous dire ceci. Si David suit Dieu, que ses guerriers ne voyaient pas, mais si les guerriers suivent David, même si eux ne voient pas Dieu, et que David lui suit Dieu, alors les guerriers suivent Dieu. Me suivez-vous? Je prends un exemple simple. Si le pasteur Bruno suit Dieu qu'on ne voit pas, et que moi et nous, on suit le pasteur Bruno, est-ce qu'on suit Dieu? Oui. Mais pour ça, il est important que les dirigeants deviennent l'évidence de l'existence de Dieu. Pour ça, il est important que si tu es un chef, et tu es un chef de famille, si tu es déjà un papa ou une maman, tu as une entreprise, tu es un chef de quelque chose. Tu es un chef de toi-même. Déjà. Et nous devons devenir l'évidence de l'existence de Dieu. Et David avait compris ça. Que pour que ces hommes soient transformés, il fallait qu'ils voient Dieu en lui. Pour que ces hommes soient transformés, il fallait que David pratique la parole de Dieu. C'était important. Parce que ce n'était pas une chose facile à faire. David avait cette difficulté-là et ce défi. Il était entouré de gens mécontents. Il pouvait aussi devenir mécontent. Il était entouré de gens rebelles. Il pouvait aussi devenir rebelle. Il pouvait. Son défi, c'était soit lui, il les influençait, ou soit eux, ils l'influençaient. Et ce n'est pas une chose facile à faire. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque si tu as des amis du monde, pécheurs, ce n'est pas facile pour les influencer. C'est même difficile parfois, tu peux te laisser influencer par eux. Si tu n'es pas un modèle, une évidence de l'existence de Dieu. Mais Jésus était comme ça. Jésus s'est assis avec des gens de mauvaise vie. Et les gens de mauvaise vie n'ont jamais rendu la vie de Jésus mauvaise. La parole de Dieu dit oui, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais ma question c'est comment faire pour que les bonnes mœurs transforment les mauvaises compagnies? C'est le cœur de Dieu. Et David a réussi cette mission. Comment? En devenant l'évidence de l'existence de Dieu. Il a pratiqué la parole. Il a montré à ses soldats un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Eux, ils étaient rebelles. Et lui, il a manifesté une loyauté. La parole, à l'époque de l'Ancien Testament, ils étaient sous la loi. Et la loi dit œil pour œil et dent pour dent. Si ton ennemi t'énerve, mets-le deux tapins dans sa tête. S'il te frappe, frappe-le aussi. Œil pour œil, dent pour dent. Et là, David a un ennemi, le roi Saül. Et lui, David, il ne répond pas comme ça. Il manifeste la soumission. Il manifeste l'honneur. Il pratique la parole de Dieu devant ses leaders. Il pratique la parole de Dieu devant ses soldats. Et c'est ce que Dieu veut que vous et moi, nous puissions faire. Pas écouter la parole seulement, mais la pratiquer. Il ne suffit pas de partager ou de prêcher la parole. Même si on est pasteur, il faut pratiquer la parole devant ses enfants. Il faut pratiquer la parole devant son épouse. Il faut pratiquer la parole devant ton frère. Pratiquer la parole devant ta sœur. Il faut pratiquer la parole devant tes parents. Pratiquer la parole devant tes collègues. Pratiquer la parole. Et ne pas laisser les autres nous influencer, influencer les autres. En devenant l'existence de l'évidence de Dieu. Et c'est ce que David a fait. Il n'a pas laissé la tentation de se rebeller contre son ennemi, l'accaparer. Il a choisi d'honorer et de répondre avec justice. Et ça, ça a convaincu ses guerriers. Dans 1 Samuel 24, on voit une histoire où le roi Saül est dans une caverne. Et là, David a l'opportunité de le tuer. Mais regardez comment David va réagir. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. « Ô roi, mon Seigneur !» Il ne dit pas « Hé, planète !» Il dit « Ô roi, mon Seigneur !» Déjà, il a un respect. Saül regarda derrière lui et David s'inclina, le visage contre terre, et se prosterna devant le gars qui veut le tuer. « Voici !» David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent « Voici David, cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'a livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. » Les gars de David disaient, « C'est bon, David. David, c'est bon, quick. Tue le roi, Saül, tue-le, David, c'est bon, tue-le. On m'excitait à te tuer, dit David. » Mais regardez David. Il dit ici, on m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est le oint de l'Éternel. Vois, mon père, il appelle Saül son père. Son vrai papa, c'est Isaïe. Il est le fils d'Isaïe. Mais son père spirituel, qui est devenu aujourd'hui son ennemi, possédé par des esprits mauvais, qui prend à son propre intérêt, même pas celui du peuple, qui veut tuer David. Il dit, vois mon père, moi je ne veux pas te faire du mal. Il dit ici, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre toi et moi, et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai pas la main sur toi. Des méchants viennent la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai pas la main sur toi. Les hommes de David, dis-tu-le, on attend cette occasion depuis longtemps. C'est un mauvais roi. C'est toi que Dieu a oint un roi. David, quelle opportunité tu ? Et David dit, non, je ne toucherai pas au oint de l'Éternel. Il dit, toi, tu me veux du mal. Mais le mal vient des méchants. Et moi, je ne laisserai pas le mal sortir de moi, David ici dit. Je ne rendrai pas le mal pour le mal. Parce que David voyait non pas Saül l'homme, mais l'autorité, le choix de Dieu qui était sur l'homme. Il voyait le oint, le mot oint signifie le choisi. Et il avait vu Saül comme le problème de Dieu, et pas son problème. Pour lui, si Dieu l'avait placé, Dieu le déplacera. Mais il n'allait pas se faire une promotion par ses propres forces. David n'allait pas manipuler pour avoir la place, tuer pour avoir la place. Il ne voulait pas avoir la place en faisant le mal. Il ne voulait pas avoir la promotion en faisant le mal. Il ne voulait pas avoir la promotion de manière malhonnête. Ça, c'est le cœur de David à Adoulam. En plus de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, alors qu'il est lui-même dans le besoin, David est devenu un modèle pour ceux qui l'entouraient. Il a manifesté une soumission à la parole de Dieu, à la vérité, à l'autorité. David a montré qu'il était loyal à la volonté de Dieu. Et là, ces soldats ont dû être scotchés. À deux reprises dans les Écritures, cette histoire arrive, une histoire similaire arrive. À deux reprises, David épargne Saül. Et là, ils ont dû être scotchés. Tu sais, tu peux ne pas apprécier un leader mise en place par Dieu. Tu peux être contre sa façon d'agir. Mais fais attention de garder ton cœur quand tu parles de lui. Tu peux ne pas être d'accord avec tout ce que le président met en place. C'est normal. Chacun a une opinion. Mais fais attention comment tu parles de lui. David ne dit pas à Saül qui fait n'importe quoi. Oh! Toi, l'espèce de gars qui fait n'importe quoi et qui me prend la tête, tu es un... Il dit pas ça. Il dit, oh, roi, mon Seigneur. Il dit, oh, roi, ce que tu fais n'est pas bon. Regarde, je t'en veux pas, moi. Regarde-moi, j'essaie de réagir de manière correcte. Dieu sera juge entre toi et moi. Toi, tu me rejettes. Moi, je sais que je m'attends à Dieu. Peut-être que des fois, peut-être tu as eu des parents qui t'ont rejeté ou qui t'ont pas aimé. Et il y en a dans ce lieu. Peut-être que tu n'as même pas été voulu avant l'enfance. Et il y en a dans ce lieu. Et tu te sentis mal aimé. Et que tu n'as pas envie de manger avec des gens qui ne t'aiment pas. C'est normal. David n'allait pas prendre un café avec Saül. Mais David a gardé son cœur face à Saül. Il a gardé sa langue face à Saül. Et c'est ce que nous devons apprendre. Parce que David, c'est ce qu'il a fait à Adoulam. Il a cherché à manifester l'évidence de Dieu. Il a montré sa soumission à ses soldats. Mais Adoulam, c'est aussi le lieu où nous apprenons à faire toutes choses comme pour le Seigneur. Parce que Dieu, déjà à Adoulam, David a dû apprendre, alors qu'il est dans le besoin, à prendre soin des gens dans le besoin encore plus que lui. Ensuite, il a dû apprendre, lorsqu'il était entouré de gars rebelles et dans la détresse, à devenir un modèle de loyauté. Et David a semé dans la loyauté. C'est pour ça qu'il a une équipe de leaders extrêmement loyale. Ces gars-là, après, quand ils ont vu David se comporter comme ça, ils se sont dit « Waouh !» Ils se sont dit « Mais waouh, mais quel leader !» Non seulement David devait donc être un modèle, mais il devait aussi apprendre à faire la volonté de Dieu à Adoulam. Il devait apprendre à servir comme pour le Seigneur et non pas pour lui-même. Il y a une histoire dans 1 Samuel 23, où Dieu demande à David d'aller défendre une ville qui s'appelle Keila. Les Philistins attaquent cette ville et pillent les réserves de céréales. Mettons-nous encore dans le contexte à la place de David. David est un roi dans la cave. Saül est le roi en position. David fuit le roi Saül qui veut le tuer. Les Philistins attaquent Israël. C'est pas à David d'aller les défendre. C'est à Saül. Et donc David apprend. On va lire ensemble ce qui se passe au verset 2. David consulta le Seigneur. « Dois-je aller attaquer ces Philistins ? » demanda-t-il. « Va les attaquer, répondit le Seigneur. Tu délivreras ainsi Keila. » Les compagnons de David lui dirent alors, « Vois-tu ici en Juda, nous avons déjà peur. Ce sera pire encore si nous allons à Keila nous battre contre les troupes des Philistins. » David consulta une nouvelle fois le Seigneur qui lui répondit, « Debout, va à Keila. Je livrerai les Philistins en ton pouvoir. » David et ses compagnons se rendirent donc à Keila et ils attaquèrent les Philistins. Ils s'emparèrent de leurs troupeaux et leur infligèrent une lourde défaite. David délivra les habitants de Keila. Comprenez ce qui se passe. David entend qu'une ville est attaquée. Saül ne fait rien. Donc il consulte Dieu. Il dit, est-ce que moi je fais quelque chose? Dieu dit oui. En plus que tu prends soin des gars maintenant qui sont avec toi et qui commencent de plus en plus à être pour toi, prends soin maintenant aussi des gens que tu connais même pas, qui sont pas là avec toi. Et David dit, attends, c'est pas à moi, c'est pas moi qui est responsable d'eux. C'est Saül. Dieu dit, vas-y, il va voir ces gars. Il dit, les gars, on y va. Les gars disent, non, des gens se cachent dans la caverne parce qu'on n'est que 400, ils sont à 600 maintenant. On n'est que quelques centaines. Saül a des milliers de soldats, il est tout le temps en notre chasse. Si on va défendre la ville, il va savoir qu'on est là. Déjà ici, on est dans la peur qu'il nous trouve. Alors à Keila, n'en parlons pas. Il va nous rattraper, il risque totalement de nous tuer. Vaut mieux pas y aller. Donc David redemande une deuxième fois, à ce moment-là, à Dieu. Et Dieu lui dit, si, vas-y. Et il y va. Et avec ses soldats, il triomphe. Ils ont une grande victoire. C'est super, c'est génial, il a délivré le peuple. Imaginez, les Philistins avaient commencé à mettre le feu aux maisons, à prendre les femmes, à réellement les violenter, les enfants pareils, à tuer. David arrive avec ses soldats au péril de sa vie et de leur vie. Il les défend au risque que Saül puisse les démasquer. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Saül les démasque, il sait où il est. Au verset 7, il est écrit, « Saül apprit que David était entré à Keila. Alors il déclara, « Dieu l'a livré en mon pouvoir, puisqu'il s'est laissé prendre au piège en entrant dans une ville aux portes verrouillées. » Saül mobilisa toute l'armée pour aller assiéger David et ses compagnons dans Keila. David se rendit compte que Saül préparait un mauvais coup contre lui. Il ordonna donc au prêtre Abiathar d'apporter les objets sacrés pour consulter Dieu. Puis il dit, « Seigneur, Dieu d'Israël, j'ai entendu dire que Saül s'apprête à venir à Keila pour détruire la ville à cause de moi. Est-ce que les gens de Keila me livreront à Saül s'ils viennent assiéger la ville comme je l'ai appris ? Seigneur, Dieu d'Israël, je t'en prie, réponds-moi. Saül va venir, répondit le Seigneur. » David reprit, « Alors, est-ce que les gens de Keila nous livreront à Saül, moi et mes compagnons ? Oui, ils le feront. » Ça, c'est un coup bas, déclare le Seigneur. Aussitôt, David et ses compagnons, au nombre de 600 environ, quittèrent Keila et s'en allèrent à l'aventure. Saül, apprenant que David s'était échappé de la ville, abandonna l'expédition. Imaginons la scène. Il a risqué sa vie. Il a sauvé tout un peuple. Il se dit, ils vont être au moins reconnaissants, ces gars-là, quoi. Si Saül vient, ils vont me protéger. Mais dans le doute, je vais quand même demander à Dieu. Et il demande à Dieu, et Dieu est cache. Ils te livreront. Tu risques ta vie pour servir des gens. Tu fais tout ce que tu peux pour donner le meilleur que tu peux. Et ils te remercient en méprisant ce que tu as fait pour eux. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça? De servir quelqu'un qui te tourne le dos après. De donner des choses et de vraiment semer ta vie dans une vie et de recevoir le mépris en retour, le rejet en retour. Ne soyons pas surpris si des gens que nous aidons parfois de manière fidèle se retournent contre nous et s'en fichent totalement de ce que nous aurions pu faire pour eux. Adullam, c'est aussi le lieu où on apprend à faire les choses, non pas pour les autres, mais tout comme pour le Seigneur. Si David avait fait ça uniquement pour le peuple, il aurait été victime de la déception. Apprendre à tout faire comme pour le Seigneur, c'est une étape importante d'Adullam. Je prends juste dans le mariage, par exemple. Lorsque tu sers ton mari ou tu sers ta femme, et que tu n'as pas le retour, que tu escomptes, comment nous réagissons? Ouais, elle m'a fait ça pour, a vu. C'est comme ça on remercie à moi. C'est comme ça que tu me remercies pour tout ce que j'ai fait pour toi. Je prends soin de la maison, toi tu arrives, tu t'en fiches. Ou dans ton travail, tu bosses, tu fais de bonnes choses, et la promotion revient à ton collègue qui fait rien. Adullam, c'est le lieu où on apprend à faire les choses comme pour le Seigneur, et non pas pour les gens. Un leader peut te décevoir, un pasteur comme moi peut te décevoir. Nous pouvons nous décevoir les uns les autres. Mais nous devons apprendre à faire les choses comme pour le Seigneur et non pour des hommes. C'est ça aussi Adullam. Colossiens 3, 23 nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » C'est ça Adullam. C'est un gros stage de formation. Ça nous prépare au règne. Parce que tu laisses, tu apprends à laisser Dieu régner. Ça c'est Adullam. Vous savez, Jésus avait son propre Adullam. Jésus, il a nourri des foules en multipliant les pains. Et le lendemain, cette foule revient et Jésus dit, vous n'êtes pas là pour moi. Vous êtes là parce que vous avez bien mangé hier. Jésus est cash. Mais il est tellement bon qu'il les redonne à manger quand même. Mais il savait, il dit, vous n'êtes pas là pour moi. Jésus a son propre Adullam où il devait apprendre à le faire parce qu'il est loyal à la volonté de Dieu. Il sait que la volonté de Dieu, c'est toujours prendre soin des besoins de son peuple. Le mot Adullam signifie justice du peuple. Jésus, la foule par laquelle il a fait des miracles, il a redonné aux aveugles la vue, il a fait marcher les paralysés, il a guéri les malades. Il a multiplié les pains. Cette même foule, il a purifié les lépreux, il a ressuscité les morts. Cette même foule dans laquelle il était passé et qu'il avait fait du bien et qui était venu rien que pour eux, pas pour lui. Cette même foule a crié à un moment donné, crucifie-le. T'imagines d'une reconnaissance. Est-ce que si toi tu as été rejeté, est-ce que tu penses que Jésus a été rejeté? Même plus, il a été crucifié. Et pourtant, à la croix, Jésus a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et j'aimerais te dire, ce matin, que toi et moi, peut-être nous avons déjà été déçus par des gens et rejetés par des gens. Mais j'aimerais te dire aussi que toi et moi, nous avons déjà aussi déçu des gens. Nous avons déjà déçu Jésus. Et pourtant, il est là pour nous. Et pourtant, il nous tend la main. Et pourtant, il nous pardonne. Jésus était passé par l'Adullam spirituel. Parce qu'à Adullam, tu apprends à prendre soin des besoins de Dieu. Et les besoins de Dieu, c'est les besoins de son peuple. Tu n'apprends plus à être scotché par tes propres besoins. À Adullam, tu apprends à être un modèle pour les rebelles. Tu apprends à être un modèle parce que tu es loyal à la vérité. À Adullam, tu apprends à dépendre de Dieu. À Adullam, tu enracines ton identité en lui. Ce n'est pas ce que Saül pense. Ce n'est pas ce que les soldats pensent. Ce n'est pas ce que les habitants de Keila pensent. Ce n'est pas ce que ton patron pense. Ce n'est pas ce que ton papa ou ta maman pense. Ce n'est pas ce que tes collègues pensent. Ce n'est pas ce que tes frères et sœurs pensent de toi. C'est ce que Jésus pense de toi. Et ça, c'est le stage d'Adoulam, où Dieu vient affirmer notre identité en lui. Vous savez, on a vu tout à l'heure, nous sommes venus pour la plupart d'entre nous vers Jésus à cause de nos besoins. Et Jésus prend plaisir à prendre les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Jésus n'a pas eu honte que son nom soit associé à des gens de mauvaise vie. Il y a certains parmi nous, par exemple comme moi, où le passé est tellement pas bien que les gens, quand tu te convertissent et apprennent ensuite que tu es avec Jésus, te disent « Lui, il s'est converti. Lui, il est avec Jésus. Ben, je veux bien voir ça. » Jésus n'a pas eu peur d'associer son nom avec une vie qui est encore dans la cave. Pourtant, toi et moi, nous sommes des rois, un peuple de prêtres rois. Mais pour l'instant, dans la cave, ça ne se voit pas. Rejeté, méprisé. Mais Dieu dit non, tu ne resteras pas longtemps dans la cave parce que j'ai associé mon nom avec toi. Et si tu comprends la puissance de mon nom prend les choses faibles pour confondre les fortes, mon nom va t'élever parce que je dis Seigneur, si tu n'as pas eu honte d'associer ton nom alors que j'étais plus qu'un moins que rien, un pécheur avec une vie mauvaise, mais toi tu as dit non Steph, je t'aime. Alors aujourd'hui, je me réjouis de faire en sorte que ton nom soit élevé, de faire en sorte que ton nom soit glorifié parce que en toi, le faible dit « Je suis fort ». En toi, le faible devient fort par ton nom, par ta puissance. Les gens vont voir et je vais sanctifier ton nom. Je vais glorifier ton nom. Dans la cave, je prendrai soin des autres. Et dans mes besoins, quand je vais prendre soin des besoins des autres, tu prendras soin de mes besoins parce que c'est ta volonté d'abord, pas ma volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas mon intérêt, mais ton intérêt. Seigneur, aide-moi. Tu m'as donné ton nom. Je suis reconnaissant. Je t'aime. Jésus, maintenant je veux que ton nom soit associé avec une vie sainte, avec une vie pure. Seigneur, de ma propre capacité, je ne peux pas, mais je veux dépendre de toi. Montre-moi, Seigneur. Ça, c'est Adoulam. Adoulam, tu apprends à porter son nom. Adoulam, tu apprends à réellement affirmer ton identité en lui. Adoulam, peu importe que tu sois catholique, protestant, évangélique, c'est pas ça qui nous définit. On n'arrive pas devant Dieu en disant « J'ai été catholique, j'ai été protestant, on s'en fiche. » Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que dans la détresse, dans la cave du rejet, la cave de l'isolement, la cave du mépris, est-ce que là, comme David, tu cherches Dieu? Ça, c'est Adoulam. À Adoulam, donc on apprend à servir ceux qui sont dans le besoin, pendant que nous sommes nous-mêmes dans le besoin. À Adoulam, on apprend à ne pas laisser les gens qui nous déçoivent affecter notre marche pour Dieu. Parfois, les chrétiens, nous décevons les uns des autres. Parfois, certains peuvent être fâchés pour un non-bonjour. Je pensais vraiment que tu m'aimais, mais tu ne m'as pas dit bonjour la semaine dernière. Oh, je ne suis plus venu à l'église aujourd'hui. Faites pas ça! On ne fait pas pour les autres, pas pour le bonjour des autres, même si par respect, par honneur, il est bon de s'honorer les uns les autres. Mais apprenons à tout faire comme pour le Seigneur. À Adoulam, on apprend à surmonter la peur de nos besoins non comblés. On apprend à surmonter la peur de nos besoins non comblés. À Adoulam, on apprend à honorer l'autorité. À Adoulam, on apprend à être loyal à la volonté de Dieu en dépit des circonstances et des opinions des autres. À Adoulam, on apprend à compter sur la délivrance de Dieu. À Adoulam, on apprend à s'enraciner dans la foi. À Adoulam, on prend de l'assurance de notre identité. On ne laisse pas le passé nous définir. C'est plus les brebis qui définissent David. C'est même plus Goliath qui définit David. Là, il est dans la cave, tout le monde s'en fiche qu'il avait battu Goliath. C'est l'histoire ancienne. Le roi veut le tuer. Dans la cave, c'était sa relation avec Dieu qui le définissait. Ça, c'est Adoulam. À Adoulam, on apprend à forger notre identité spirituelle en Christ. Quand les autres te rejettent, tu dis non, Christ m'a accepté, il est l'Emmanuel. Quand les gens te méprisent, tu dis attends, Dieu m'aime. Ça, c'est le vrai succès. Parce que notre vrai besoin, c'est de découvrir qui nous sommes en Jésus-Christ. Ça, c'est le vrai besoin. et nos besoins matériels cachent ce vrai besoin souvent. Parce que ce vrai besoin de découvrir qui nous sommes en Jésus ne peut se découvrir uniquement lorsque tu commences à dire non pas ce que je veux, non pas ce que Seigneur tu peux faire pour moi, mais ce que tu veux, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Que tu commences à demander à Dieu comme Paul dans Actes 9, que veux-tu que je fasse? Que tu commences à parler comme ça, au lieu de dire Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Tu dis c'est bon, je sais qui tu es maintenant, que veux-tu que je fasse pour toi? Et tu commences à retirer tes regards de tes propres besoins, pour regarder aux besoins de Dieu, être loyal à sa volonté. Alors tu découvres que ton propre besoin, c'est de connaître qui tu es en lui. Et tu ne laisses plus la cave de définir. Tu ne laisses pas Saül de définir. Tu ne laisses pas tes collègues de définir. Tu ne laisses pas ton passé de définir. Tu ne laisses pas ta maman de définir. Tu ne laisses pas ton papa de définir. Tu laisses Dieu te définir. Ça, c'est Adoulam. Tu es forgé dans ton identité. C'est ça le vrai besoin que nous avons tous. Découvrir qui nous sommes en Jésus. C'est ça le vrai succès. D'être affermi de notre identité par la foi en lui. Et ça, c'est Adoulam. Ton identité en crise ne dépend pas de ton mari. Ton identité en crise ne dépend pas de ta femme. Même si vous êtes un lié. Mais de nos choix. Avant toute chose. Les gens du monde pensent que pour devenir quelqu'un, il faut être riche et fameux. Mais moi, j'aimerais vous poser la question, être riche, jusqu'à quelle somme? Pour devenir quelqu'un, quelle somme il faut? Être fameux, être populaire, jusqu'à combien de personnes? Il y a des gens populaires, il y a des gens riches qui sont totalement insécurisés dans leur identité. Et c'est leur popularité ou leur richesse. Ils se cachent derrière pour faire leur identité. Mais les enfants de Dieu que nous sommes, c'est Christ Jésus qui fait notre identité. C'est pas ce que tu fais, c'est pas ton statut social, c'est pas ta passion, c'est pas tes talents, c'est pas le succès par tes talents. Gloire à Dieu pour ça. Mais c'est ce qu'on est en Jésus. Et Adoulam, c'est ça. Ça, c'est Adoulam. Tu commences à être tellement affermi en Jésus-Christ dans la foi que tu découvres qui tu es. Ça, c'est le vrai succès. Et tu apprends à le servir, peu importe que le peuple de Keïla a rejeté David. Peu importe, David a fait ce que Dieu lui demandait. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Adoulam, donc, c'est le lieu. Nous apprenons à être fidèles dans les besoins de Dieu. Et le besoin de Dieu, c'est toujours le besoin des autres. Adoulam, tu apprends que tu es un collaborateur de Dieu. Adoulam, tu apprends que Dieu a fait de toi son ouvrage. Il t'a préparé, comme dit Éphésiens 2, pour de bonnes œuvres. Dieu a fait sa part et il attend que toi et moi nous fassions la nôtre. Nous ne pouvons pas faire la part de Dieu, mais Dieu ne fera pas non plus notre part. Ça, c'est Adoulam. Tu apprends à servir. Même quand tu as le besoin des autres. Et tu découvres que Dieu prend soin de toi. C'est le cœur de Dieu. C'est un beau stage. Qui sans l'aide de Dieu est impossible. Mais c'est pour ça que nous avons la foi. C'est pour ça que son Saint-Esprit vit en nous. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un moment?